nombreuses années.
C'est ton regard. Oui, c'est sûrement ton regard qui m'a convaincue. Encore maintenant, je me demande pourquoi. Car contrairement à d'autres, il y avait tellement de signaux d'alerte. J'avais 20 ans. J'avais envie de vivre à fond. J'étais belle, curieuse, joyeuse, mais j'étais grosse et je doutais de moi et de mériter d'être aimée.
J'ai 20 ans.
Ça s'est fait lors d'une soirée où on était invité par des amis communs. C'est quelqu'un que je connaissais pas du tout et j'ai même failli pas arriver à cette soirée parce que des amis avaient pas tellement envie de venir et moi j'avais pas envie d'y aller toute seule. Donc c'est une rencontre qui aurait très bien pu ne jamais se faire. Et puis finalement, on s'est rencontrés là-bas.
Alors on parle de cette histoire, nous sommes en 1992. Pierre, comme je le comprendrais presque 30 ans plus tard, va utiliser en fait une méthode très très classique de séduction qui porte un nom, qui s'appelle le love bombing. Pierre me plaît pas plus que ça, mais je vais devenir sa jolie proie qu'il va attraper entre ses griffes de façon, moi, très naturelle et sans pour autant comprendre ce qui va se passer. Je vais tomber amoureuse. Nous suivions les mêmes études, Pierre et moi. Il y avait aussi en lui l'idée de convoitise et ça, c'est ce qui me faisait peur. J'ai toujours eu peur d'être sur un tableau de chasse d'un homme. Voilà, on est étudiant, on fait des soirées, c'est la vie classique des étudiants. On va prendre un verre, on va se retrouver à danser et puis on va s'embrasser assez rapidement.
C'est quelqu'un qui était extrêmement charismatique. Je me souviens très bien de son entrée dans la pièce avec son casque de moto. C'est quelqu'un qui m'a fait un effet waouh dès que j'ai posé les yeux sur lui. Et puis je le trouvais beau en tout cas à ce moment-là. Je me souviens de son sourire en fait. C'était quelqu'un de très solaire. Je crois que c'est ce qui m'a plu tout de suite, son côté solaire. On s'était retrouvés un moment à discuter tous les deux et à faire connaissance en fait, parce que finalement, il y avait assez peu de gens que je connaissais pas à cette soirée-là. Puis le courant était bien passé, donc on a échangé nos numéros, puis on s'est dit qu'on aimerait bien se revoir. Moi, je sortais d'une relation qui avait été un peu compliquée et j'étais pas tellement dans l'objectif de me recaser, quoi. C'est surtout quand on s'est revus que là, il m'a plu vraiment parce que j'avais l'impression que quelqu'un s'intéressait vraiment à moi, à qui j'étais, à ce que je faisais. Et c'était assez valorisant dans cette période de ma vie où, en plus, j'avais été largué comme une chaussette dans le métro parisien et où je me souviens de cette relation précédente où je m'étais retrouvé en plein milieu de la nuit à Paris sans toit pour crêcher, à devoir appeler au secours mes parents pour qu'ils viennent me chercher parce qu'il n'y avait évidemment plus de train pour rentrer en Normandie. Donc oui, c'était assez valorisant cette discussion parce qu'il y avait quelque chose qui me réparait quelque part. C'était quelqu'un qui était à l'écoute, quelqu'un d'extrêmement intelligent, voire même brillant. Et je crois qu'en fait, j'étais aussi dans cette quête-là d'aller chercher quelqu'un avec qui intellectuellement ça pouvait aussi passer, qu'on puisse être sur la même longueur d'onde. Et le fait que je le trouve très beau, ça rajoutait quelque chose à l'équation. Il me faisait rire et il m'écoutait. Tout est allé très vite. Cette deuxième rencontre, elle s'est faite chez lui. Il m'a embrassé et c'était ok pour moi. Et j'étais même voilà, sur mon petit nuage. J'avais l'impression que c'était le début de quelque chose de chouette.
Il est brillant. C'est un type hyper brillant. Et ça, je vais le comprendre très vite. Il est fin, il est brillant, il écrit extrêmement bien. Il est drôle, il me fait rire. Pierre va faire plus que ça. Je vais devenir une déesse, une princesse. J'ai toutes les qualités requises. Pierre me regarde comme si j'étais la sixième merveille du monde. C'est une méthode extrêmement classique, qui est très déstabilisante, qui s'appelle love bombing. Donc, on va donner à sa victime tout un panel d'amour, de sublimation, d'élévation au-dessus des nuages, qui ne succomberait pas à ça, particulièrement à 20 ans. En réalité, pendant plusieurs semaines, mois peut-être, on va être totalement idolâtrée. Il y a de l'idolâtrie. Au début, en tout cas, les preuves d'amour sont multiples, à tel point que Pierre habite encore chez ses parents. Moi, j'ai un appartement. Il va tout quitter et il va venir habiter très vite chez moi. Mais quand je vous dis très vite, c'est 24 heures, 48 heures. Le mot emprise n'arrivera pas pendant plusieurs décennies.
J'étais amoureuse de l'image qu'il me renvoyait de moi aussi. Les premières semaines, quand je lui parlais de mon boulot, il trouvait que c'était formidable. Moi, j'avais des rêves assez dingues encore à ce moment-là. Et il me disait qu'on allait tout faire pour les réaliser parce que c'était important. Il me faisait croire que j'étais importante. Vraiment. C'était beau. Et j'avais à ce moment-là, de toute façon, aucune raison de me méfier. Parce que que tout était paradisiaque. C'était vraiment la lune de miel. Ah, c'était un bonheur absolu. J'étais la 8e merveille du monde pendant à peu près 3 semaines.
Sur le moment, on laisse tout passer parce que c'est trop beau d'être ému.
C'est sans doute pour ça, pour ton regard, où je me trouvais belle. Celui qui présage le début de belles aventures. Et puis, on a discuté des heures. Et le monde autour de nous, nos amis qui écoutaient de la musique, riaient parfois, nous espionnaient, demeurant bruyants, n'existaient plus. Nous étions seuls au monde, nous formions une équipe. Est-ce ça le coup de foudre? En tout cas, cette expérience où nous avions échangé notre premier et merveilleux baiser était suffisant pour que tu deviennes le sujet de mes rêves à venir, le personnage principal de mon avenir.
J'avais besoin de son aval. Pendant cette période-là de ma vie, j'avais besoin de l'aval de mes pères. Quand c'était pas ma famille, c'était mes amis, et puis c'était lui que je mettais sur un piédestal.
La première des choses, ça va être l'idée de très très vite faire couple, c'est-à-dire de très vite de créer une forme d'obligation de faire couple, vivre ensemble, que ensemble, et dès que possible, faire famille. Pour le pervers narcissique, il va falloir à un moment donné ferrer sa proie. Dans le discours des experts de la perversion narcissique, ils appellent ça le ferrage. Il faut que la proie, à un moment donné, ne puisse plus avoir les moyens de partir. Quel meilleur moyen que de proposer de faire un enfant très rapidement, d'habiter ensemble très rapidement, pour avoir une emprise qui va être non plus uniquement à deux, mais très souvent à trois. L'enfant va être un moyen de ferrage très important.
On a parlé enfant et je me suis dit, en même temps, c'est vrai que faire un enfant, c'est aussi la preuve qu'on peut avoir confiance en l'autre et puis qu'on est vraiment investi dans cette relation, parce que c'est quelque chose aussi qu'il pouvait me dire, que j'étais pas assez investi, qu'il pouvait pas croire en mon amour. Donc je me suis dit, allez, banco. Moi, je rêvais d'être maman et en fait, un enfant, sur un socle qui n'est pas solide, de toute façon, c'est un... C'est la porte ouverte à toutes les dérives.
Il va détruire, par exemple, tout ce qui va être relatif à mon ex. Et ça, je ne vais pas m'en rendre compte tout de suite. Alors, ça va se poser comme ça, avec des petites interdictions que presque je comprends. C'est du chantage, c'est-à-dire, si tu m'aimes vraiment, si notre histoire a du sens, tu ne peux plus être en contact avec les gens avec lesquels tu étais en contact avec ton ex. Ce n'est plus possible. Tout ce qui va te rapprocher de ton ex ne peuvent plus faire partie de notre histoire. Nous devons ouvrir une autre page.
La première chose qui m'a marquée, c'est un soir où on est parti se coucher, il allume son ordinateur et il me fait défiler des photos de ses ex-compagnes en me disant « Tu vois, t'as de la chance, parce que je t'aime vraiment pour qui tu es, ce qu'avant, je ne sortais qu'avec des mannequins. » Ça, c'est quelque chose qui aurait pu me mettre la puce à l'oreille, « Tu as de la chance parce que je t'aime. » J'ai pas vu au départ. Alors aujourd'hui, je me dis que c'est absolument ahurissant et puis que je fuirais. Mais à ce moment-là, il m'avait tellement convaincu avant que j'étais quelqu'un de formidable, que du coup, j'ai vu ça comme « Ah, c'est vrai que j'ai de la chance. » Je me souviens avoir été un peu meurtri, et en même temps, j'ai essayé de me rassurer, d'essayer de me donner une bonne contenance en me disant « Ben oui, mais en même temps, c'est vrai, j'ai de la chance. » Et puis, il y a une petite fissure au fond de moi qui s'est créée en se disant « Tiens, il est allé toucher un point sensible, ma confiance en moi. » Ça a été le début de l'enfer.
Je dis, j'ai accepté votre interview, mais moi, je suis spécialiste de la périnatalité. Donc, je vois beaucoup de femmes, donc un certain nombre de victimes, mais en même temps...
Docteur Mambray, psychiatre depuis 50 ans.
Dans la nomenclature des pathologies psychiatriques, les pervers narcissiques n'existent pas. Le concept de pervers narcissique, c'est un concept qui est issu d'une utilisation... populaire, mais pas dans le sens péjoratif du terme, d'un concept qui est plutôt psychanalytique, qui est apparu dans les années 80 à peu près, et c'était décrit plutôt pas comme une personnalité, mais comme un mode de défense, un mode de fonctionnement psychique. Par plusieurs psychanalystes, le plus connu, le nom vous dira peut-être quelque chose, c'était Racamier. C'est un terme qui est forgé à partir de deux concepts, la notion de perversion et de narcissisme. Ça correspond en fait à une réalité pratique que vivent un certain nombre de victimes. mais ce n'est pas un concept qui fait partie de ce qu'on appelle la nosographie, le catalogue des différentes pathologies. En sachant que toutes les nosographies sont extrêmement arbitraires, en particulier en psychiatrie, parce qu'elles changent très souvent. Les catégories en psychiatrie changent très souvent. Le narcissisme, ce n'est pas un vice, c'est une donnée psychologique de base. C'est un concept d'estime de soi. Et le narcissisme, c'est l'estime de soi nécessaire. C'est devenu un terme péjoratique, il est narcissique, c'est-à-dire que c'est des gens qui donnent l'impression d'avoir trop d'estime de soi. Mais on a tous besoin d'une estime de soi qu'on appelle le narcissisme. D'ailleurs, quand on voit quelqu'un, c'est souvent en psychiatrie, qui a un défaut d'estime de soi, on met sur notre observation défaillance narcissique. Les pervers narcissiques donnent l'impression d'avoir une estime d'eux poussée à l'extrême. En réalité, en psychiatrie, souvent, si on creuse, c'est souvent des mécanismes de compensation. C'est-à-dire qu'ils donnent une impression d'hypertrophie du moi, d'hyperassurance, de domination, d'ego surdimensionné, qui est en fait un cache-misère par rapport, pour beaucoup d'entre eux, au fait qu'ils ont une faiblesse de l'estime d'eux-mêmes. Et c'est un phénomène de surcompensation en écrasant l'autre. Et souvent, les gens dits pervers narcissiques, ils forment un couple avec leur victime, qui a une défaillance narcissique. C'est une sorte de vampirisme.
Je peux t'évoquer plein de choses qui ont pu se passer, qui rétrospectivement sont absolument hallucinantes. Je me souviens de soirées qu'on passait ensemble quand j'avais le droit de venir aux soirées. Si j'avais le malheur de discuter avec l'un de ses amis, que je rigole avec eux, à des blagues, quoi que ce soit en fait, s'ensuivaient des insultes, des menaces. Une fois après une soirée comme ça, il m'a littéralement jeté de la voiture. Il a ouvert la porte et il m'a jeté en me déposant chez moi, en me disant qu'il ne voulait plus jamais me revoir, que j'étais la dernière des salopes et que j'avais pas à agir comme ça parce que ça lui faisait honte que j'étais sa propriété en fait. Donc il y a eu des petites choses comme ça, enfin petites, tout est relatif, puis après j'ai plus le droit de sortir.
Durant toute cette période, il y a du mensonge, beaucoup, il y a beaucoup d'injonctions, des injonctions qu'on ne peut pas respecter. Et il y a ce qu'on appelle le gaslighting. Alors le gaslighting, c'est l'idée absolue de faire passer sa victime pour folle. Ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, en fait, ça marche. Hein. C'est terrible.
Quelles sont les choses caractéristiques? C'est le narcissisme, l'hypertrophie du moi, la surévaluation de sa valeur. On peut discuter des différents aspects que ça prend, c'est-à-dire l'impression d'avoir toujours raison par rapport aux autres, d'être supérieur aux autres, d'être parfois, chez très grands narcissiques, l'impression que presque ils sont d'une autre nature que les autres, que sont presque des élus destinés à diriger les autres, parce qu'ils sont d'une autre trempe, d'une autre nature. Donc c'est cette hypertrophie narcissique dont on vient de dire qu'elle cachait quelquefois une grande misère d'estime de soi. Il y a l'absence d'empathie, beaucoup, qui se retrouve dans les personnalités narcissiques, un égocentrisme absolu, c'est-à-dire que tout revient à soi, et puis tendance à manipuler l'autre pour arriver à sa propre satisfaction. Là encore, prudence, parce que la capacité à manipuler est commune à tous les êtres humains. On essaye tous d'arriver à nos fins. Je dirais que là encore, il y a un gradient. La manipulation perverse, elle a le but d'obtenir une satisfaction précise. Globalement, la satisfaction plus précise, c'est de dominer l'autre, c'est de l'emprise de l'autre, c'est la jouissance d'être dans le contrôle de l'autre.
Et puis on s'est cherché et retrouvé. Très vite, tu es devenu mon inséparable, même quand tu disparaissais. Je passais des heures à te chercher partout, anéanti, désemparé, une toxico en quête d'une dose. Mais où que tu sois, je savais te retrouver. C'était devenu ton jeu, me manquer pour que je m'accroche, disparaître et revenir pour me parler d'amour et de notre avenir. Je croyais notre histoire éternelle. J'étais prête à tout, me mettre à dos toute ma famille pour toi. On a dormi dehors, tu étais ma maison, tu étais mon foyer, ma famille. Pendant ta peine de prison, tu m'as manqué au point où je ne pouvais plus respirer. J'ai arrêté mes études, j'ai fui toute ma vie pour te la consacrer. Dans cette pièce lugubre de la maison d'arrêt, fermée minutieusement à clé, sous la surveillance d'un gardien et de nos témoins, on s'est mariés. J'ai dû en décevoir plus d'un, mais je ne voulais surtout pas te décevoir toi. Alors, le temps de ta peine fut la mienne. Avais-je commis un crime? C'était à s'y méprendre. Ton linge à l'odeur du malheur, les parloirs. Déjà, je n'avais plus le droit de vivre sans toi. À ta sortie, ce fut le début de ma fin.
Repartons à écouter sur Radio HDR. Retrouvez les podcasts de Repartons sur Spotify et YouTube.
Le début, c'est tout cet amour et moi j'y crois de toute façon.
Donc quand on s'est installés ensemble, je restais à la maison, il sortait avec ses amis, il rentrait ou il ne rentrait pas. Et je me souviens d'un soir comme ça où j'ai attendu, parce que j'arrivais pas à dormir, jusqu'à 4 ou 5 heures du matin. Et où un de ses amis est venu toquer à la porte en me demandant où était passé Pierre. Et je lui ai dit mais je n'ai pas de nouvelles, donc je ne sais pas. Il ne me répondait pas. Et il l'avait perdu en soirée, et en fait, tellement alcoolisé, il avait un pet en voiture, puis il est rentré en sang, et il me dit « t'en parles à personne, je veux pas avoir de problème ». Il a pris ses affaires et il est parti dormir chez la voisine au-dessus. Puis j'ai fini par comprendre qu'il se passait plein de trucs avec la voisine du dessus, chez qui je n'avais jamais le droit d'aller, quand il allait prendre l'apéro, dîner chez elle, et que moi j'attendais patiemment dans l'appartement. Et aujourd'hui, je m'en veux de ne pas avoir ouvert les yeux plus tôt, de ne pas avoir tapé du poing sur la table, de ne pas avoir pris mes affaires et être parti. Mais comme il me quittait régulièrement, qu'il jetait mes affaires, mes meubles sur le trottoir, et qu'il revenait en s'excusant, en me jurant que ça allait jamais se reproduire, il travaillait sur lui parce qu'il manquait de confiance en les autres, qu'il agissait comme ça, je revenais. Parce que j'avais toujours l'espoir de retrouver cette petite lune de miel qui n'a pas duré très longtemps au début de notre relation, mais sur laquelle je restais fidèlement accroché comme son chien à son maître, quoi.
Également, les pervers narcissiques ne s'attaquent pas à n'importe qui. Ils ont des typologies de proie. Cette typologie de proie, elle doit répondre à deux choses essentielles pour lui. C'est de repérer qu'elle est en situation où l'abandon est quelque chose de très puissant chez elle. Elle souffre d'abandon. Ça, c'est radical. Mais la deuxième chose, c'est qu'elle doit être brillante. Parce que s'il n'y a rien à sucer comme sang de la victime, ça n'a aucun intérêt pour lui. C'est un vampire. Et c'est d'autant plus un vampire que sa technique, elle est imparable. On peut la repérer si on en a connaissance. Il doit éloigner de sa victime l'ensemble des personnes qui potentiellement pourraient repérer que c'est un bourreau. Et elle reste, et c'est terrible. Une fois en fait le ferrage fait, c'est-à-dire le ferrage, et là c'est presque fini. Après il y a l'isolement. Tant qu'on n'est pas ferré, on ne peut pas être isolé en réalité. Donc il y a le ferrage, et puis vient l'isolement. Il est magique, hein. C'est presque simpliste, c'est beaucoup plus fin que ça, c'est cette personne n'est pas bien pour toi, elle n'est pas bien pour nous, tu vois pas ce qu'elle nous fait, je vois pas l'intérêt.
Le fait d'avoir besoin de la validation de mes proches, c'était aussi le symptôme d'un manque de confiance réel. Donc il appuyait là où ça faisait mal.
Il n'y a pas ou peu de violence, il n'y a pas de violence physique, en tout cas pour ma part, avec le pervers narcissique. À l'extérieur, il est magique. C'est un bourreau d'intérieur.
Il ne levait pas la main sur moi. Chose qu'il avait déjà faite auparavant avec des ex-compagnes dont il m'avait parlé. Moi, je lui avais dit, mais le jour où tu lèves la main sur moi, je prends mes affaires et je m'en vais. Et ça, c'était, au fond de moi, le point de non-retour, la violence physique. J'avais pas du tout la même appréhension pour les choses orales. J'avais tellement été, dans mon enfance, mon adolescence, rabaissé de diverses manières que ça s'était rentré dans un processus de vie. Et donc, la violence psychologique, je la subissais depuis des années et ça faisait partie de mon quotidien, donc c'était quelque chose que je pouvais endurer. Mais la violence physique, j'en avais jamais fait les frais. Et pour moi, c'était la chose ultime qu'aurait pu faire que je serais parti. Et donc, je pense que comme il le savait, il n'a pas osé. Parce que le faire, c'était du coup perdre l'emprise qu'il pouvait avoir sur moi, parce que là, je partais et je portais plainte. La violence psychologique, j'ai mis du temps à comprendre que j'étais sous emprise et que c'était de la violence tout court.
Je ne suis pas sûr qu'il y ait une si grande différence que ça entre les hommes violents et les pervers narcissiques. Ou je me trompe peut-être. Hein. Peut-être que justement, il y a les pervers narcissiques et puis les hommes violents. Effectivement, peut-être que les hommes violents se recrutent plus chez des personnalités psychopathiques, impulsives, ce qu'on appelle les personnalités antisociales, qui ont en commun avec eux l'impulsivité, l'intolérance aux frustrations, la violence interpersonnelle, et qui ont aussi très souvent des histoires personnelles perturbées. Alors, est-ce qu'il faudrait dégager de champs voisins, mais pas complètement superposés, mais en partie superposés, hein. Je pense qu'il y a des hommes pervers narcissiques qui basculent dans la violence physique quand à court d'arguments.
Personne ne va comprendre. Comment expliquer que je sois restée aussi longtemps ? Comment expliquer que j'ai accepté ça ? Moi, Marie, pas trop bête, avec une situation professionnelle plutôt peu qualifiée d'assez exceptionnelle. Moi, je peux pas, non ? C'est pas possible. Donc, tout ça est très compliqué. Et une fois le fer achevé avec l'enfant ou les enfants, toute cette période-là, à l'intérieur de la maison, il va utiliser tout ce qu'il est possible d'utiliser. Le mensonge, bien sûr, beaucoup de mensonges. En fait, le mensonge n'a vocation qu'à rendre folle son interlocutrice. Hein. C'est-à-dire, pas forcément prendre des vrais exemples, mais en tout cas, pour aller très très loin, ça peut aller très loin. Hein. C'est-à-dire, je te dis que la mer est rouge, et pour avoir la paix, puisque ça ne va jamais s'arrêter, jusqu'à ce que je puisse dire « oui, tu as raison, la mer est rouge ». Ça peut durer des nuits entières. Je te dis qu'un tel ou qu'une telle est, mettez l'adjectif qui vous convient derrière, alors que c'est ton ami proche, tu vois, c'est quelqu'un que tu aimes, c'est quelqu'un, je te dis que, accepte, écoute-moi, entends ça, et puis au bout du bout, on ne reverra plus l'ami parce que c'est trop dur.
À cette époque-là, je travaillais comme serveuse et je me souviens qu'il avait installé une application sur mon téléphone avec mon consentement, plus c'est ça qui est quand même assez dingue, pour me géolocaliser, pour vérifier que j'étais bien là où je disais que j'étais. Et comme moi, j'avais rien à cacher, je me disais, mais il n'y a pas de problème, en fait, on peut faire tout ce que tu veux. Si tu as besoin d'avoir confiance en moi et si tu veux en passer par là pour que je puisse te prouver par A plus B que je ne te mens pas et que je te respecte, aucun problème. Et puis, les potes ont commencé à me dire, mais faut pas faire ça. Soit il te fait confiance, soit il ne te fait pas confiance, mais toi, tu n'as pas à le rassurer de cette manière-là. Donc j'ai compris le système d'emprise après. Quand ça t'arrive, tu te rends pas compte. T'es complètement persuadé que c'est de l'amour. Parce qu'en plus, tu restes accroché vraiment à l'image qu'il a pu te donner de toi-même au début de la relation.
Les signes vont s'accentuer. On a des grosses, grosses crises sur le corps, par exemple, sur les critiques autour du corps, qu'il va falloir aussi que je transforme la femme en mère. Ça, c'était très important pour lui. Que j'arrête d'avoir des signaux extérieurs un peu de joliesse ou de séduction. La femme doit devenir mère. Mes jupes sont trop courtes. Mais ce n'est jamais lui. Il faut savoir, ça c'est important. Ça c'est très surprenant. C'est mon frère pense que tes jupes sont trop courtes. Ma mère pense que tes jupes sont trop courtes. Mon père pense que tes jupes sont trop courtes.
J'ai été très vite intégré à sa famille. C'était chouette. C'était pas la première fois que je rencontrais la famille d'un de mes conjoints, mais passer autant de temps avec eux, finalement, j'avais vraiment l'impression d'être intégré, de faire partie prenante de cette famille, qui était très différente de la mienne. Ils semblaient très soudés. On se voyait tous les dimanches, avec les repas de famille, les choses comme ça. Des choses que moi, je vivais pas dans ma famille. Et donc, il y avait un côté assez chouette. Je me souviens que c'est moi qui allais coucher la petite sœur, qui lui lisait des histoires. Voilà, j'ai vraiment fait partie très très vite de cette famille. J'ai été accepté rapidement. Je pense que la famille aussi peut avoir des dysfonctionnements. Parfois, quand on est parent, on a envie de défendre son enfant bec et ongle, et qu'on lui trouvera toujours toutes les excuses du monde pour ne surtout pas voir ce qui va pas.
Moi, ils vont être ma famille d'adoption. Et ça, c'est important aussi, c'est-à-dire que, comme je vous disais, il faut que la victime souffre d'un sentiment fort d'abandon. En étant avec Pierre, j'ai aussi la famille de Pierre. Je deviens une belle fille chouette. J'ai une place dans cette famille. J'ai une famille.
Les premières semaines, ça se passait plutôt bien, parce que pareil, comme c'était quelqu'un d'extrêmement courtois, quelqu'un de solaire, ils n'ont pas vu le loup. C'est quand les choses ont commencé à déraper que là, oui, ma mère surtout m'a mise en garde, puis pas qu'elle, mais les premiers temps, non. Puis après, bah forcément, les relations se sont dégradées et ma famille refusait catégoriquement qu'ils mettent les pieds à la maison. Et puis quand j'en parlais à ses parents, enfin à sa mère surtout, elle lui trouvait plein d'excuses et elle me disait « mais je comprends, mais ne t'inquiète pas, il t'aime, je ne l'ai jamais vu aussi amoureux de quelqu'un ». Donc en fait, elle venait aussi quelque part me rassurer. Et donc je me disais, bon, bah, je vais m'accrocher. Et puis comme jusqu'à présent, avant cette relation-là, je quittais assez facilement les hommes avec qui j'avais pu être, je me disais, bon, Anna, si tu restes, c'est que quelque part, t'y crois à cette relation, parce que sinon tu serais déjà partie. Je me rassurais comme ça, en disant, c'est forcément le bon, parce que pour endurer ce que t'endures, c'est quelque part, il va ouvrir les yeux et puis il va se rendre compte de la chance qu'il a. Parce qu'il y avait quand même un côté de moi qui me disait, mais en fait, si, t'es une fille bien, il peut avoir confiance en toi. Donc pourquoi il ne le voit pas?
Personne ne m'a donné de signe.
Je suis tombée très vite enceinte. Même si je croyais que c'était déjà le cas, là, je t'appartenais. Je devenais la putain, celle qui est bonne à rien. J'avais interdiction de sortir sans toi, de manger ce que je voulais, de porter des habits féminins, de me maquiller, d'avoir des copines, de discuter avec des hommes, encore moins leur faire la bise. Tous ceux que j'aimais, selon toi, étaient indignes d'être côtoyés, surtout ma famille. Tout ce que j'aimais était nul. Je devenais nul pour choisir. Tu me disais « roule ma boule » pour m'appeler. Tu me disais que j'étais bête, que je ne comprenais rien, que je me trompais surtout. Je doutais tant de moi. Je me croyais minable, folle, indigne de toi. Toi qui recommençais à me laisser seule enceinte, à t'attendre des nuits entières. Tu coupais ton téléphone pour être tranquille. Tu rentrais pour récupérer de tes jours passés à te tourner l'esprit. Parfois tu revenais de dégrisement et puis tu redevenais gentille pour deux jours où tu me faisais croire en ton amour. J'ai tenu dans l'humiliation, dans la terreur, dans ta violence, dans ta prison, dans tes injonctions, dans tes trahisons, dans ton alcool, dans ta délinquance. J'ai tenu plus de 4 années où je n'étais plus que ta chose, ton jouet cassé, et notre enfant m'a sauvée.
Non, les victimes n'aiment pas souffrir, c'est pas vrai. Elles n'ont pas de plaisir à la souffrance. Les pervers très sévères ont la jouissance ultime, c'est de faire souffrir l'autre. Les victimes, non, elles souffrent. Elles n'ont pas l'impression de pouvoir faire autrement. Elles sont dans une emprise. Il y a l'emprise qui est créée par la séduction, ensuite l'emprise qui est créée par on fait un enfant ensemble, et puis si tu me quittes, j'en demande la garde, voilà, quitte à pas m'en occuper. Hein. Pas la question. C'est, le but n'est pas de m'occuper de mon enfant. Je ne dis pas que des pervers narcissiques ne peuvent pas aimer leur enfant. C'est surtout pour, dans un premier temps, essayer de retenir l'autre et quand ça ne marche pas, de venger de l'autre.
On est tout le temps en train de se poser la question si ce qu'on fait va convenir ou pas. Donc on est tout le temps en alerte. L'idée qu'il va être de mauvaise humeur, donc créer dans le foyer une capacité à pouvoir tout pourrir. Y compris la vie joyeuse avec les enfants, machin, etc., y compris les vacances, tout pourrir. C'est un cœur un peu pourri, hein. Il n'a pas d'empathie. Hein. Il n'a pas d'empathie, voire même, il va prendre plaisir à la souffrance de l'autre.
Comme à chaque fois, j'avais le droit à des excuses, c'est comme si il réparait ses torts, et donc, à partir du moment où c'était réparé, où c'était ce que je croyais être cicatrisé, j'y retournais. Parce qu'on a toujours l'espoir. J'ai toujours pris sa défense, parce que prendre sa défense, c'était prendre la mienne aussi. Parce que quelque part, dans le regard des autres, je me sentais jugé dans mon choix de femme avec ce compagnon-là. Donc prendre sa défense à lui, c'était prendre ma défense à moi, et quelque part, je leur en voulais de vouloir m'ouvrir les yeux. J'étais en colère, parce qu'ils avaient beau me dire « mais on ne te voit plus, tu n'oses plus nous appeler, tu maigris à vue d'œil, tu ne ris plus, t'es triste constamment ». Et en fait, je le savais, tout ça, mais pour moi, le problème venait des autres. Pas de moi, alors qu'en fait, c'est pas tant que le problème venait de moi, c'est que j'avais pas du tout envie d'ouvrir les yeux. J'étais pas prête pour ça.
Le pervers ainsi crée des lois. Sauf que ces lois-là, il ne vous en parle pas. Et durant la relation aussi, il a créé tout un nombre incalculable de lois, de règles. Il est au-dessus de Dieu, hein. Faut savoir, un pervers ainsi, qu'il est très au-dessus de toute... Alors Dieu ou n'importe quelle autre croyance, peu importe, mais il est très au-dessus de tout ça. Donc il crée des lois, mais ces lois, il ne vous en fait pas part. En revanche, si vous contournez la loi ou si vous n'appliquez pas la loi, il y aura punition. Ça, c'est un principe très, très, très courant. Enfin, c'est une de leurs manières d'exister.
C'était plus fort que moi, cette envie que les choses changent. parce que je me disais qu'on pouvait toujours avoir une meilleure version de soi. Il était impensable pour moi que la personne en face de moi ne puisse pas changer, puisque j'étais prête à l'aimer telle qu'elle était. Je pouvais aussi l'aider à guérir quelque part. Je me suis placée aussi en tant que sauveuse. J'étais victime et sauveuse.
Repartons à écouter sur Radio HDR. Retrouvez les podcasts de Repartons sur Spotify et YouTube.
Dans les injonctions contradictoires dont je vous parlais, c'était